Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. Nous sommes en direct en ce mercredi 28 mai de 19h à 20h et nous serons en rediffusion demain, jeudi 29 mai de 9h à 10h. Vous pouvez retrouver ce podcast sur La Forêt des Possibles sur Spotify. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que La Forêt des Possibles avant d'introduire nos invités ? La Forêt des Possibles, c'est une émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et sociale de Marseille. On appelle ça la forêt parce que ce qu'on a envie de montrer, c'est de dire que chacun, isolément, n'est pas capable de pouvoir répondre à toutes les questions que posent les enjeux de transition écologique, mais qu'ensemble, on le peut. Et rien de mieux que de s'associer à une image qui parle à tout le monde que celle d'une forêt, un grand écosystème où nous avons chacun et chacune une place à prendre. Ça, c'est l'émission. Mais la Forêt des Possibles, ce sont aussi des ateliers qu'on déploie dans les quartiers de la ville autour de l'image d'un arbre qui vous invite à aller à la racine de vos questions, de vos aspirations, de vos besoins, de vos ressources pour ensuite vous inviter à faire du lien avec ces acteurs et actrices de la dite forêt des possibles. Le lien qui se retrouve chaque troisième jeudi du mois au court-circuit à côté de Notre-Dame du Mont. Et donc vous avez l'occasion à ce moment-là de pouvoir rencontrer les porteurs de projets. Porteurs de projets ce soir que sont Mathilde d'Alençon. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Marin.
Et Romain Mailloux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Romain. Mathilde et Romain, ce soir, vous allez nous présenter votre film « I am the future ». Mais comme vous le savez, pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, au départ, ce que c'est les personnes qu'on souhaite découvrir, ce sont vous. Vous connaissez un peu le mantra de la forêt des possibles, c'est du moi au nous et du nous au tout. L'idée, c'est de pouvoir comprendre vos parcours, savoir qu'est-ce que vous avez porté comme projet, et puis ensuite, quels sont les projets que vous portez dans la société, et donc de pouvoir monter comme ça en échelle et de se dire, mais moi aussi, je peux porter des choses. Et de manière plus intellectuelle, en fait, ça permet de débunker ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, où souvent les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales se renvoient toujours un peu la faute. Ah, c'est pas moi, regardez, c'est les autres qui font rien, donc moi, je peux rien faire non plus. Ici, tout est possible. Bienvenue à vous. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter et donc d'aller aux prémices de vos engagements, à la racine de vos parcours. Est-ce que quelqu'un veut débuter ?
Allez Mathilde, honneur à toi.
Eh ben, donc Mathilde, j'ai grandi à Marseille et je viens de revenir à Marseille là après 8 ans, 9 ans de vagabondage en France et à l'étranger. Donc trop heureuse d'être là dans cette émission à Marseille, à la Friche. Et donc moi, j'ai 26 ans et à la base, je viens plutôt du milieu littéraire, culturel. Et en même temps associatif, donc j'ai toujours voulu un peu créer des ponts entre l'engagement social et la culture, la littérature, parce que j'aimais énormément ce support et je suis sûre que c'est un très bon moyen pour ouvrir les imaginaires justement, sensibiliser, se mettre à la place de l'autre. Et donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur ce projet de film. Et puisque auparavant, j'ai donc eu ces deux aspects, j'ai créé une association avec mes cousins qui s'appelle Une Lettre, Un Sourire, pour créer du lien intergénérationnel entre des jeunes et des personnes âgées au travers de la lettre. On a fait ça pendant le confinement. Et puis en parallèle de ça, donc plutôt des activités culturelles, artistiques, du théâtre, prépa littéraire, master de culture, communication, un stage en Gambie à l'Alliance française. Donc voilà, et c'est un peu avec ce projet que pour la première fois, j'ai réussi à concilier cette aspiration sociale et puis le médium artistique.
Mmh. Ouais, on entend déjà toutes les prémices du projet qu'on présentera juste après de votre film. Quand tu parlais le nom du projet sur les lettres, c'est
Une Lettre, Un Sourire.
Une Lettre, Un Sourire. Ça, alors là, le nom m'avait échappé, mais ça avait quand même été une initiative particulièrement connue à l'époque. Moi-même, sans te connaître, j'avais fait des dessins pendant le confinement que j'envoyais avec cette association. Merci pour ce premier partage. Je me tourne vers toi, Romain. Est-ce que toi aussi, tu as eu les aspects culturels et la question du lien, ou est-ce que ce sont finalement d'autres chemins et d'autres questions qui t'ont taraudé?
Alors, pour revenir sur Une Lettre, Un Sourire, c'est quand même plus de 1 million de lettres qui ont été envoyées dans les maisons de retraite. C'est énorme, donc c'est vraiment une initiative qui est aujourd'hui colossale. Et ça, je pense qu'il faut, il fallait le dire. Au-delà de ça, donc je m'appelle Romain, j'ai 29 ans. Je suis ingénieur et donc le cofondateur et producteur du film qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je viens pas particulièrement du monde de la culture, donc plutôt du monde des ingénieurs, des scientifiques. Et j'ai eu la chance de commencer ma vie professionnelle dans l'associatif avec une association qui s'appelle Life Project for Youth et qui accompagne des jeunes des bidonvilles à trouver un travail décent. Et ça a été une expérience extraordinaire car j'ai pu passer un an et demi à Jakarta et j'y ai rencontré des jeunes adultes infiniment inspirants. Et en rentrant ensuite à Paris et à Londres pour faire du conseil, toujours autour des enjeux d'inclusion, mais on va dire beaucoup plus loin de la réalité des gens avec lesquels on travaillait sur ces thématiques d'inclusion, ces jeunes me manquaient et je réfléchissais toujours à comment, enfin jeunes ou moins jeunes, on pouvait leur donner la parole et leur laisser une place dans la construction du futur désirable. Parce qu'on a des professionnels, des scientifiques qui sont experts des thématiques, par exemple le changement climatique, l'inclusion, la place de la femme, etc. Et c'est évidemment super important de les entendre, mais on a aussi besoin de la voix des premiers concernés. Et Wahab, à Jakarta, dans son quartier, la Montée des Eaux, il la connaissait plusieurs fois par an, chaque année. Il la vivait et il avait plein de choses à dire dessus. Donc, en deux mots, pour terminer, de là est née cette envie de faire un film pour donner la parole à Wahab, à Lakshmi, à Mamadou, super inspirant.
Merci Romain. Et alors quand je vous entends, Romain et Mathilde, j'entends les ingénieurs et la culture. Et donc ça me permet aussi d'introduire les autres personnes qui sont autour de cette table. Parce que nous avons aussi Jeanne Ray, animatrice de la Forêt des Possibles. Et Jeanne, tu travailles à la Réserve des Arts. Et donc j'entends aussi une certaine résonance sur les questions culturelles comme Mathilde. Et Félix Stédelin, tu es en studio et toi tu es un ingénieur en formation et donc pour le coup j'entends aussi une certaine résonance avec peut-être le parcours que nous partage Romain. Et pour me présenter moi, c'est Marin Maufray et donc je vous propose de lancer cette conversation et donc de pouvoir aussi continuer avec ce que tu disais à l'instant Romain sur le fait d'avoir fait ce volontariat, cet engagement et à Jakarta et de te dire t'avais envie de donner la parole. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous parle aussi chacun de votre côté finalement, c'est donner la parole à d'autres et de donner la parole pour que des personnes entendent ces voix-là peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui depuis le début vous touchait, peut-être d'être des passeurs de pont?
Ouais, moi en quelques mots très naïvement, ce départ en Indonésie, c'était vraiment, j'ai terminé mes études, je veux accompagner d'autres jeunes qui n'ont pas eu les opportunités qui sont les miennes, c'est-à-dire de faire une école d'ingénieur, de trouver un travail décent. Donc je pars en Indonésie un peu au hasard, l'association m'envoie là-bas et je me dis « allez, on y va ». Et donc je prends en pleine face une réalité que je n'avais même pas imaginée. Et surtout, je m'éloigne de toutes les idées qui pouvaient être les miennes un peu misérabilisante de jeunes à l'autre bout du monde qui vivent dans des bidonvilles. Et je me rends compte en les côtoyant qu'en fait, je me sens complètement bête à côté d'eux et j'ai beaucoup d'admiration et il y a une résilience folle, une intelligence folle. C'est les entrepreneurs que je trouve super inspirants et desquels on m'a jamais parlé pendant les cours. Et je me dis, mais il faut trouver un moyen de mettre plus de visibilité auprès de ces jeunes. Et il y en a des millions, on ne parle pas de quelques jeunes isolés, des jeunes qui vivent dans des bidonvilles, c'est près d'un jeune sur trois, c'est colossal. Donc donner la voix, et comment donner la voix? Le film. Pourquoi le film? Parce que quand je demandais aux gens qui m'entourent « qu'est-ce que tu fais toi le soir ?», c'était « je regarde Netflix ». Donc s'ils m'avaient dit « je lis des livres », on aurait fait un livre. Mais non, c'était les films. Et bon, au-delà de ça, ça me touchait aussi. Et du coup, il a fallu monter une équipe qui s'y connaissait en film, dans la culture. Et là, Mathilde arrive dans l'équipe.
Pour revenir un peu aux prémices et à pourquoi cette question de donner la parole fait écho, je pense que, enfin, en tout cas, c'est un peu ce que disait Romain, c'est-à-dire que c'est par la rencontre que nous, dans nos parcours respectifs, on est vraiment réussi à passer au-delà de tout ce qui est idées reçues sur des jeunes, des cultures, de la pauvreté, etc. Et en fait, cette idée de rencontrer, pour moi, c'est un peu la clé pour créer un monde plus juste où tout le monde, enfin, vraiment changer de regard qu'on peut avoir en France. Et enfin, je dis ça parce que en rentrant, j'ai passé 6 mois au Zimbabwe entre ma licence et mon master. Et là, en rentrant, j'étais vraiment confrontée par, en vrai, des propos assez racistes sur des jeunes en Afrique, etc. Et ça m'a tellement révoltée. Et je me suis dit, mais on connaît tellement mal ces cultures que c'est quand même très complexe, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas forcément conscience. Et le fait de poser des jugements très simplistes sur des cultures qu'on ne connaît pas, en parlant de l'Afrique qui est un continent alors qu'il y a plein de pays différents, etc., je me suis dit, mais c'est fou. Et en fait, aller au-delà de ça, ça passe par la rencontre. C'est juste rencontrer, écouter, partager, aller avec des personnes dans des lieux, chez des familles, dans des partout. Et donc, je trouve que ce film, c'est en tout cas l'idée qu'on avait un peu derrière la tête, c'est de pouvoir, au travers d'un... Tout le monde n'a pas la chance, ne peut pas aller voyager, rencontrer des personnes qui sont pas, de cultures différentes, etc., bien qu'en France, c'est quand même possible. Et l'idée, c'était, au travers d'un médium, de pouvoir proposer... une rencontre pendant une heure avec des personnes qui font pas partie de notre entourage, quoi.
Alors, on a bien compris la genèse, la volonté sous-jacente dans le film, donner la parole et puis de pouvoir montrer aussi, dans ce que tu dis, ce que j'entends, toute la nuance et toute la richesse qu'on peut avoir de cultures qui sont pas forcément les nôtres, plutôt que de les amalgamer dans un grand tout. Quand tu dis l'Afrique, effectivement, parler d'un continent entier et d'en employer qu'un seul mot, c'est quand même assez hallucinant. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est ce film, de quoi parle I Am the Future? Tout à l'heure, tu l'as hyper bien pitché.
Alors, je vais essayer de me relancer dans une nouvelle version du pitch, parce que le but, c'est de changer de pitch à chaque fois qu'on le présente. Il y a des versions plus ou moins réussies, je tiens à vous prévenir. Peut-être déjà en quelques mots pourquoi le cinéma, parce qu'au-delà du fait que les gens regardent en effet des films, c'est que c'est aussi un art total, et ça c'est passionnant. C'est donc de la musique, de l'image, des dialogues, et nous on a même incorporé des dessins, donc il y a toute une partie où ça devient un dessin animé, il y a de la fiction, il y a de la réalité, bref. C'est une palette de médiums artistiques qui est passionnante. Le film, I Am the Future, c'est donc une immersion dans la vie de quatre protagonistes, Lakshmi, Mamadou, Diane et Soumaïra. Mamadou est un jeune réalisateur, réfugié politique guinéen, qui est arrivé en France il y a maintenant 7 ans, et qui fait un film pour raconter comment ça s'est passé son arrivée en France. Ensuite, on a Lakshmi. Lakshmi, elle vit à Delhi, à Sangam Vihar, c'est un quartier de Delhi, et son rêve depuis toujours, c'est de danser. Mais parce qu'elle vient d'une famille qui n'a pas forcément les moyens de lui payer des cours de danse, et dans une communauté où c'est pas très bien vu pour les femmes de danser, elle fait face à plein d'obstacles, et elle décide, parce qu'elle ne s'arrête jamais, elle a peur de rien, du coup de jouer en dansant, faire une comédie musicale, pour expliquer les difficultés qu'elle a pour danser, à travers le film. Donc en fait, on la filme préparer la comédie musicale qui explique un petit peu les défis qu'elle a. Ensuite, on va voir Diane, qui elle est à Jakarta, à Kampung Sawah, c'est là où j'étais moi aussi pendant un an et demi. C'est au nord de la ville, c'est situé entre une énorme autoroute qui est en train de grappiller petit à petit les bidonvilles et un port avec des conteneurs partout, des conteneurs d'ailleurs qui viennent de Marseille. Et là, il y a la montée des eaux, c'est un endroit qui est très sujet au réchauffement climatique. Et Diane, elle adore son bidonville, son quartier. Elle le dessine tous les jours et c'est son moyen artistique, c'est le dessin. Et elle, dans cette partie, elle va traiter la montée des eaux et le début de son engagement à la question du changement climatique à travers le dessin. Et enfin, Soumaïra, au Liban, dans le Hakkar, zone rurale, elle utilise la photo pour porter la voix des femmes de sa communauté et rappeler qu'elles sont un élément essentiel à la structure de tout ça. Leur communauté.
Et alors quand tu as fait ton introduction, tu as parlé de protagonistes et tu nous as aussi parlé du fait qu'il y avait une partie de réalité et une autre qui était de fiction. Là, on est d'accord que ce sont des personnes qui portent ces projets au quotidien dans leur communauté. C'est pas une invention de votre côté, parce que moi je le sais, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, sachant que le film n'est pas encore tout à fait sorti, je vous laisse confirmer ou pas ces propos.
Oui, bien sûr, évidemment, c'est un documentaire, donc c'est vraiment quatre jeunes qui portent quatre projets artistiques. C'est seulement que on a voulu mettre l'accent sur ces projets artistiques et non pas sur le côté un peu misérabiliste de vivre dans un bidonville, etc. Et donc de fait, il y a un parti pris artistique dans le film qui met une frontière de flou entre qu'est-ce que c'est que la réalité et qu'est-ce que c'est que la fiction. En tout cas, quand on regarde le film, je fais un peu de teaser comme ça, les gens se disent mais ça veut dire quoi ? Il faudra aller voir au cinéma pour voir ce que ça veut dire. Non, mais en tout cas, il y a un peu de la danse, il y a en effet des dessins incrustés. enfin un parti pris artistique qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en termes, enfin ce que le mot documentaire nous évoque. Mais évidemment, tout ce qui est dit dans le film est vécu par les personnages.
Mmh. Comment vous avez fait la rencontre de ces personnages protagonistes?
Alors, je vais répondre tout de suite à la question. Juste sur un point, pourquoi c'est pas misérabiliste? Parce que tout simplement, ce film. On l'a écrit avec les protagonistes et eux, leur vie, évidemment qu'elle n'est pas misérable. Elle est joyeuse, elle est pleine de passion, plein de projets, enfin comme nous tous. Donc c'est pour ça qu'on ne s'attend pas du tout vers ça. Et d'ailleurs, c'est coécrit parce qu'il faudra aussi qu'on parle de toute l'équipe. Et évidemment qu'on a une réalisatrice très talentueuse, Rachel Sizinski, qui a travaillé avec les jeunes pour faire ce film. Et donc pour revenir à ta question sur comment on les a rencontrés, c'est des jeunes qui... Trois d'entre eux ont été accompagnés par LP4Y, Live Project for Youth, qui en fait est coproductrice du film. Et donc, on a fait des séminaires avec beaucoup de jeunes qui avaient été accompagnés par cette association dans chaque pays. Et on leur a proposé de réfléchir au changement climatique, à la place de la femme, aux questions d'inégalité, plus faire du théâtre, danser, regarder comment ils étaient à l'aise avec la caméra. Et en fonction de ces séminaires, on a pu choisir les protagonistes.
Et vous, quelle était votre place là-dedans? Parce que quand on entend la question d'une approche non misérabiliste, c'est aussi une approche d'échange. C'est quelque chose que tu partageais tout à l'heure, Mathilde. Donc vous avez aussi, vous aussi, été complètement partie prenante de l'aventure. À vous entendre, vous êtes derrière la caméra et pas devant, mais malgré tout, vous êtes dans la même aventure. Donc comment vous êtes situé?
Donc déjà, on est parti à 5. Donc il y a Romain, Rachel, la réalisatrice, Virgile, ingénieur du son, et Gwenaël, chef opérateur. Donc le fait d'être en petite équipe, c'est sûr que ça fait qu'on a tous vécu de très près le tournage, toute cette aventure. C'est 9 mois de tournage, 1 an d'aventure dans ces différents pays, l'Inde, l'Indonésie, le Liban, la France, New York. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est 4 jeunes qui témoignent aux Nations Unies lors de la journée de l'éradication de la pauvreté. Et donc notre place, avec Romain, on était sur un peu tout ce qui était gestion de projet, donc on n'était pas en effet derrière la caméra, on a laissé ça aux professionnels, mais on faisait moi en tout cas, la communication, partenariat et campagne d'impact. Le but, c'est que ce film soit aussi un prétexte entre guillemets pour parler de sujets de changement climatique, la place des femmes, etc. Et Romain, plutôt le rôle de producteur, gestion financière, gestion de l'équipe, etc.
Et aujourd'hui, quel est le lien que vous continuez à entretenir avec ces 4 jeunes qui sont derrière la caméra et puis le reste de l'équipe? J'imagine qu'il y a une volonté de créer une communauté, peut-être, de pouvoir apporter un message qui soit un peu plus que juste un film et après c'est fini.
Déjà, avec les personnages, moi, j'ai eu Lakshmi au téléphone ce week-end et c'est trop chouette. En effet, on essaie de garder contact. Donc, on a quelques nouvelles. Lakshmi, tu vois, je l'ai eu au téléphone où elle est là et on a eu un bel échange. Elle essaie de trouver du travail. Après, c'est des situations qui sont évidemment difficiles. Enfin, Lakshmi, elle a toujours pas de travail aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle a un truc, mais ça lui plaît pas du tout.
Elle a un travail, mais c'est pas le travail de ses rêves. Elle est pas danseuse.
Ouais, elle voulait arrêter, mais elle reprend. Tu vois, c'est du call center. Alors qu'elle, son rêve, c'est de danser. Mais en fait, il y a évidemment plein de contraintes qui font que c'est plus difficile pour elle que pour moi de réaliser son rêve. Et voilà, Mamadou, peut-être que je grille un peu les étapes, mais lui, il a été suivi pour dans son engagement cinéma. Donc il a 2 projets en cours. Un, c'est son propre film qu'il cherche un producteur, mais un scénario qui est ficelé, et c'est vraiment un projet pour parler de l'intégration en France tirer de sa propre expérience, celle de ses amis, mais un peu sous forme fictionnée. Et puis, il passe des castings, il est suivi. Donc, c'est aussi chouette de les voir un peu évoluer en essayant de les mettre dans des réseaux, etc. J'ai oublié le début de ta question.
Et Diane, du coup, elle a un travail de graphiste parce qu'elle a réussi à monétiser du coup son talent pour le dessin et elle aime beaucoup ça. Donc, elle travaille pour une agence de cosmétiques tout en continuant à donner des cours aux jeunes de son bidonville sur les questions d'environnement ou au-delà de ça. Elle donne des cours d'anglais. Elle parle super bien anglais. C'est super, beaucoup mieux que moi, par exemple. Et enfin...
Soumaïra,
elle s'engage avec l'UNICEF en ce moment au Liban. Et elle fait du volontariat un petit peu dès qu'elle en a l'opportunité. Elle n'a pas encore trouvé de travail parce que le Liban, comme vous le savez, est dans une situation très compliquée, et bien qu'elle soit diplômée et traductrice anglais, français, arabe. Anglais, français surtout. Non, surtout arabe, anglais. Et ben, elle ne trouve pas de travail. Donc si jamais vous êtes au Liban et que vous pouvez offrir un travail à Soumaïra...
ça, c'était une des questions que j'allais vous poser, c'est... Les personnes qui nous écoutent et qui auront vu le film qui sort le 10 septembre, si je ne m'abuse, en salle, comment est-ce qu'on peut continuer à les aider, voilà, c'est même pas les aider, mais en fait rentrer dans la dynamique, peut-être plus que le mot aider, si jamais on veut rester dans cette approche qui soit de partage plus que de misérabilisme, pour reprendre vos termes. Comment est-ce qu'ensuite on rentre dans les dynamiques qui sont proposées ? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez proposer vous aussi ?
Ben ouais, Mamadou, si vous êtes, s'il y a des producteurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent produire un court métrage à Paris, Mamadou a beaucoup de talent et a un script qui est prêt, donc ils pourront au moins vous envoyer leur dossier. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et pour Lakshmi en Inde, il faut la suivre sur les réseaux sociaux. Elle communique, elle essaie de faire du personal branding pour se faire aussi un portfolio. Et pourquoi pas faire d'autres castings pour d'autres films?
Après, au-delà de suivre les personnages, c'est surtout, on met en place le fait d'être ambassadeur du film, et c'est de porter le message qui va au-delà de ces jeunes. Et c'est aussi la volonté de Lakshmi Soumaïra d'être en fait porte-parole de la communauté. Et ça passe aussi au travers de diffuser le film. Et le film, il va passer dans des écoles, dans des associations, dans des entreprises aussi, pour essayer de... sensibiliser des jeunes, les engager eux aussi à dire qu'ils ont une responsabilité de porter la voix, et ça, enfin, créer un monde un peu en commun, ça passe aussi par ça, que tout le monde soit représenté en termes de paroles, de situations de vie, etc. Et donc c'est toute notre campagne qu'on est en train de mettre en place.
Dans La Forêt des Possibles, on aime bien faire des liens, et moi il y a quelques projets que ça m'évoque en fait de vous écouter. En l'occurrence, le film déjà qui s'appelle En quête de sens, qui a dû sortir en 2015, de deux jeunes français qui se sont posés des questions sur un monde absurde, et qui ensuite sont allés un peu partout dans le monde pour identifier des porteurs de projets, et qui ensuite ont beaucoup proposé la diffusion de ces films et de l'organisation de débats. Un deuxième film qui s'appelle Bigger Than Us, où j'avais été à le voir à Marseille en 2021, et je me souviens qu'il y avait eu tout un débat dans la salle derrière. Et une journaliste que j'ai rencontrée la semaine dernière à Marseille, qui s'appelle Frédéric Bedos, qui porte un projet qui s'appelle Project Imagine. Ayant présenté ça, ma question arrive. À chaque fois, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a cette volonté d'inspirer pour ensuite rentrer dans l'action. Et finalement, les réalisateurs, réalisatrices de films sont un peu les intermédiaires entre l'inspiration qui est provoquée par le film, les émotions qui en sortent, et après, l'appel à la discussion pour inviter les personnes qui regardent le film à rentrer dans l'action. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous habite et qui va attendre vos spectateurs, spectatrices à partir de la rentrée ?
Bien sûr, et pour parler très très concret, on a donc une plateforme qui s'appelle You Are the Future, et qui va arriver sur un QR code à la fin des représentations, en tout cas dans la mesure du possible. Et donc quand tu flashes, t'as plein de propositions d'action. Ça va de la sensibilisation, parce que justement on a rencontré Frédéric Bedos, qui en effet est trop chouette. Mais au-delà de ça, elle nous a dit, elle, et c'était très vrai, c'est-à-dire qu'avant de s'engager, t'as besoin prendre un temps pour toi, de savoir pourquoi je veux m'engager, quelle est ma place dans ce monde. Et pour ça, ça passe par de la sensibilisation, de te former un peu toi-même aux enjeux. Donc il y a toute une partie un petit peu de formation, une partie de passage à l'échelle, enfin de passage à l'action. On a des partenaires avec lesquels on propose du mentorat, des maraudes, de plusieurs choses, partir en volontariat, donc en fonction du temps qu'on a et des entreprises, et puis plein de kits pour partager le film en entreprise, en école, en association, avec des supports pédagogiques pour justement faire passer des messages.
Tu voulais rajouter quelque chose, Romain? Je te vois.
Ouais, pour revenir à chaque fois je change de sujet, c'est terrible, je dois être la pire personne à interviewer, mais pour revenir sur comment aider les jeunes, en fait je réfléchissais Et donc, c'est ce que disait Mathilde, il faut absolument aller voir le film, mais en fait, ils n'ont pas vraiment besoin d'aide, de notre aide, comme ça, en mode, est-ce que je peux leur donner une opportunité ? C'est pas vraiment ça, c'est plutôt prendre conscience que leur témoignage a de la valeur, en fait, que leur quotidien est inspirant, et que c'est pas juste la vie d'un jeune parmi un autre dont tout le monde se fout. Et quand ils vont à l'ONU, Lakshmi, Diane, Soumaïra et Mamadou, ils réalisent...
Et vous aussi, j'imagine.
Et nous aussi, ils réalisent que là où leur vie semble complètement banale, voire nulle, quand ils sont dans leur bidonville, ils sont des superstars d'un coup, parce qu'ils prennent la parole à l'ONU. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Pas rien. C'est les mêmes personnes. Sauf que leur expérience, leur capacité à témoigner, leur aisance à l'anglais, inspire. Et là, les gens, tout de suite, se disent « Mais c'est qui ces superstars ?» Et c'est dingue, ça, quand même. Ça, c'est toute la question de briser des idées reçues qu'on peut avoir. Et donc, c'est ça, le message. Il faut se sentir légitime pour prendre la parole quand on a une expérience de vie qui n'est pas du tout inutile ou peu intéressante. Et l'avis des gens qui sont en première ligne des crises contemporaines, économiques, politiques, climatiques, est passionnante, énormément de valeur, on a besoin de l'entendre.
Ça m'évoque une question, mais que je vais garder pour la deuxième partie d'émission, sur ce que tu viens de dire, sur le tout d'un coup tu prends la parole et puis tu portes un discours, parce que j'avais déjà eu cette... quand j'ai écouté Frédéric Bedos la semaine dernière, ça m'avait déjà évoqué quelque chose, donc je la garde pour tout à l'heure. On va bientôt arriver sur la pause, j'aimerais que vous puissiez nous partager chacun une petite pépite, parce qu'on a beaucoup parlé des émotions et finalement du fait d'entrer aussi dans l'action par l'émotion et par ce qui émeut. Et donc voilà, en une minute, de partager une pépite du film, ça peut être qui est à l'écran ou une expérience vécue dans le fait de le monter.
En écoutant Romain, il y a moi une anecdote qui m'est venue qui apparaît pas dans le film, mais on était à New York avec Diane, Soumaïra, Lakshmi. C'est la première fois qu'ils prennent l'avion, c'est la première fois qu'ils se retrouvent évidemment à New York, etc., hors de leur pays. Et en fait, là, ils se retrouvent, on fait un événement avant avec des partenaires de LP4Y, donc avec que des chefs d'entreprise, des personnes, enfin vraiment la jet set new-yorkaise et L3. Et là, d'un seul coup, j'intercepte une conversation où il y a Soumaïra qui est toute seule avec au milieu de tous ces hommes chefs d'entreprise et qui les interpelle en disant en anglais, mais vous vous rendez compte, moi je suis hyper motivée, je suis traductrice, j'ai un diplôme et je suis incapable de trouver un travail, mais est-ce que vous êtes capable de l'expliquer? Et en fait, c'était même pas de l'agressivité, elle se rendait pas compte que ces personnes-là en fait ont la possibilité de l'embaucher, et elle a fait taire tous ces hommes autour d'elle qui étaient vraiment en mode non, je sais pas, je peux le faire, mais oui, je le ferai pas. Et c'était un moment, moi, qui m'a énormément émue, parce qu'on voit le charisme, tu vois, d'une fille comme ça, la motivation, l'intelligence de situation. Et en effet, t'es pris devant une injustice qui fait trop mal au cœur, quoi.
Et la sincérité.
Ouais.
C'est un message qui est sincère, qui est direct. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de technique de communication, de politique.
Ça se sent rien que dans le fait que tu partages. Là, tout d'un coup, moi, j'ai senti une émotion dans le studio. Romain ?
Là, je suis embêté parce que comment raconter une histoire aussi puissante ? Mais peut-être que j'aurai le temps de la musique pour choisir mon histoire.
Allez, ça marche. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de nous faire voyager avec la musique que vous avez décidé de nous faire écouter pour cette respiration musicale. Est-ce que vous voulez nous la présenter, peut-être ?
Ouais, c'est une musique qui s'appelle Pétale, qui est dans le film, dans la bande-annonce, Inawazi. C'est une pépite. On parlait de pépite, on voit la une.
Voilà. Eh bien, écoute, merci Romain. On se retrouve juste après dans l'émission de La Forêt des Possibles. Nous sommes toujours en direct avec Mathilde Alençon et Romain Mahut qui nous présentent leur film I Am the Future. À tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 et nous sommes toujours dans l'émission de La Forêt des Possibles en direct de 19h à 20h en ce mercredi 28 mai 2025 avec Mathilde d'Alençon, Romain Mailloux qui nous présente le film I Am the Future et en studio pour les accompagner toujours Jeanne Ray, Félix Tédelin et moi-même, Marin Maufray. Dans cette première partie d'émission, nous avons tracer les chemins de vos parcours et de votre projet I Am the Future et notre intention, notre invitation pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est de montrer que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, que vous aussi, vous pouvez vous engager et que face à l'immensité des questions que traverse notre monde bouleversé et déchiré, on a parfois l'impression qu'on ne peut rien faire, alors que si, c'est possible. Il s'agit juste d'être au bon endroit. Et donc là, dans cette deuxième partie d'émission, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir finalement parler de thématiques de société que vous arrivez à pouvoir mettre en avant avec votre projet. Et donc, je vais vous donner trois intentions. La première, c'est de parler de la force du collectif. La deuxième, la force des imaginaires. Et ensuite, on va se projeter dans un imaginaire concret à Marseille en 2035. Et je vais commencer avec la force du collectif en vous partageant une petite réflexion. Puis après, je vous inviterai à rebondir dessus. Réflexion qui a déjà... Enfin, que je nourrissais déjà en écoutant Frédéric Bedos la semaine dernière, qui n'est pas une critique, qui est un apport, attention. Pourquoi je dis ça ? Parce que, évidemment, que je trouve que c'est génial de mettre en avant des initiatives et des personnes qui, à un moment, se lèvent et disent bah, « on va faire des choses ». Ça m'est revenu, Romain, en t'écoutant, quand tu disais on pouvait ne pas les écouter, puis tout d'un coup, ils sont allés à l'ONU et ce sont devenus des stars. Et donc, je questionne un peu cette question-là pour deux raisons. La première, parce que je pense qu'il y a toujours une équipe. Par exemple, La Forêt des Possibles, nous sommes un collectif. Si jamais il n'y avait pas Jeanne, Félix et puis tout le reste de l'équipe, ce projet n'irait pas bien loin. Quand bien même, il pourrait y avoir des leaders qui parfois l'incarnent. Première chose qui me vient à l'esprit. Et la deuxième, c'est une lecture peut-être un peu bourdeusienne sur le fait qu'à un moment, on peut aussi être face à des limites de système. Où si jamais on n'a pas la bonne classe sociale, on n'a pas le bon genre, on n'a pas le bon âge, on n'a pas les bonnes études, on n'est pas né au bon endroit, on pourra toujours arriver jusqu'à certains stades, mais il peut y avoir parfois des effets de seuil. Et même quand on franchit l'effet de seuil, ça ne veut pas forcément dire qu'on transforme la structure derrière avec des inégalités qui peuvent rester très structurantes. Et je trouve que c'était quelque chose que tu nous partageais de manière assez criante juste avant l'émission, Mathilde, quand... J'ai oublié le nom de la personne qui a pris la parole, mais qui disait « Mais moi, je suis traductrice, et pourquoi j'ai pas de travail ?» Ça montre quand même qu'on est face à des personnes qui ont des opportunités pour embaucher, et malgré tout, ces inégalités demeurent. J'aimerais avoir votre avis sur la question du collectif. Voilà, et le fait que c'est une œuvre collective, c'est une aventure collective que vous avez fait avec ce film, et donc ce que ça vous évoque.
Sur la question, pour revenir à ce que tu disais, et encore une fois, je ne vais pas répondre à la première question. Quand on veut, on peut. Moi, je trouve cette phrase complètement débile. Voilà, c'est dit. Moi, je pense qu'on peut dire quand on peut, on veut. Et même quand on parle des inégalités, quand on peut, on doit. Ce qui est quand même un peu différent. Et donc, le modèle de l'entrepreneur successful qui s'est fait de nulle part et peut tout réussir seul, enfin, je pense que personne n'y croit vraiment. Il suffit de tirer ses expériences personnelles. Toutes les choses qu'on réussit, c'est toujours avec l'aide d'autres personnes. Ou alors on est complètement égocentrique et on ne s'en rend pas compte. Donc, nous, ce film, c'est évidemment grâce aux protagonistes, Mamadou, Lakshmi, Diane, Soumaïra, grâce au talent de Gwen, Virgile, Rachel et plus que tout Mathilde, c'est grâce aux gens qui nous ont confié de l'argent et nous ont fait confiance pour faire ce projet. Et je pense à John et Laure de LP4Y qui, quand on leur a parlé du truc alors qu'on venait pas du monde du cinéma, se sont dit allez go, on leur fait confiance, alors que personne, aucun producteur ne voulait mettre un billet sur nous au début. Et notre distributeur qui va nous permettre finalement de sortir ce film au cinéma. Et tous les spectateurs qui l'ont beaucoup apprécié. Voilà, c'est la force du collectif. Aucun doute là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, Marin.
Et pour faire un peu le pendant côté personnages et des personnes qu'on a rencontrées, ces quatre personnes, c'est vrai qu'on ne les met pas... Enfin, peut-être que dans le film, elles apparaissent un peu comme des stars parce que c'est des personnages de cinéma, donc de fait, on les met en avant. Ensuite, elles ont été choisies parce que justement, et il avec Mamadou, parce qu'en fait, ce n'est pas des stars. Et c'est des personnes qu'on a piochées dans un endroit donné, très local, et qui sont un peu comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Après, Monsieur et Madame Tout-le-Monde n'est pas Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Tout le monde a des spécificités et c'est ça qu'on met en valeur. Mais en soi, c'est pas des personnes qu'on a choisies parce qu'ils avaient des engagements, etc. Ensuite, et je rejoins là-dessus sur le collectif, c'est qu'en fait, le fait de se rencontrer, ça crée une envie d'engagement. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans la rencontre de ces jeunes, notamment les trois filles qui parlent anglais, et Mamadou ne parle pas anglais, donc évidemment, il y a aussi une barrière de la langue. Et Mamadou n'était pas là à New York. Et donc, pendant cette rencontre à New York entre ces trois filles, donc elles se sont très bien entendues, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer, enfin rêver plutôt, enfin quelque chose, voilà, une très belle rencontre. Et en fait, elles ont réalisé, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, que leurs problèmes individuels auxquels elles faisaient face dans leur famille, dans leur environnement et tout ça, elles se le partageaient, alors qu'elles étaient de religions différentes, de cultures différentes, parce que ben voilà, moi aussi j'ai ma famille a envie que je me marie, mais moi j'ai pas envie, moi aussi, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, le fait de partager cette envie, enfin, des problèmes individuels sont en fait des problèmes collectifs, parce que même au discours à l'ONU, on parlait de le fait d'entendre d'autres témoignages qui sont pas forcément d'elles, mais de d'autres ONG et tout ça, elles se sont dit, ok, ce que je fais face, voilà, c'est collectif, et mon témoignage donne un apport à ce problème auquel plein de femmes font face dans le monde. Et en fait, ça, je me souviens, après avoir parlé à Lakshmi, qui dit, mais moi, j'ai envie aussi maintenant de m'engager pour ça. Je comprends que je suis dotée d'une responsabilité. Et voilà, et pour faire l'autre pendant, ça, c'est un peu le collectif qui donne envie de s'engager. Et l'autre pendant, moi, c'est ce qui m'a marqué quand on était en Indonésie, dans le bidonville à Jakarta, c'est qu'en fait, tout le monde est dans la même situation. C'est-à-dire que les femmes, elles se marient très tôt. Tout le monde a un travail indécent, de vendre un peu au coin du bidonville, etc. Et en fait, ça, évidemment, on parlait avec des jeunes filles qui n'ont même pas l'imaginaire d'aller à un travail décent. Et quand on parle de la force de l'imaginaire, je pense que ça va aussi là-dedans, de donner à des personnes la possibilité de rêver d'autre chose que le quotidien dans lequel tu es.
Allons-y, tu es en train d'ouvrir grand la voie de la question des imaginaires. Tu finalement, tu pourrais être à ma place, hein, plus besoin d'animateur. On a parlé de la question du collectif, on va parler donc de la question des imaginaires. Par rapport à ce projet de la Forêt des Possibles, on a un wiki qui s'appelle l'Arbre des Imaginaires, où nous aussi, à ce moment-là, de très humblement, on voulait participer à promouvoir de nouveaux imaginaires de société en les rangeant autour de l'allégorie d'un arbre pour pouvoir montrer une multitude de possibles. C'est un mot qu'on emploie souvent. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Hier, Romain, quand on a préparé l'émission, tu as employé un moment une image qui m'a touché sur le fait que tu avais été ingénieur et que la vie n'était pas une grande équation qui visait à aligner des X et des Y, mais que c'était aussi parfois quelque chose de plus prosaïque avec de l'émotion et de l'amour. Voilà, j'aimerais avoir vos regards sur ces questions-là. Plus que des questions, c'est plus la question d'un regard.
Sur les faits, bon, ils sont importants, mais ce que j'ai constaté en travaillant en tant qu'ingénieur, c'est qu'ils n'étaient pas suffisants pour déclencher le passage à l'action. Donc je travaillais, je faisais du conseil, on passait notre temps à faire des analyses, à donner des rapports avec des très très factuels, et en parallèle de ça, je lisais des rapports faits par plein de professionnels sur la disparition du vivant, sur les inégalités, etc. Enfin, c'est criant, tout le monde est au courant, et pourtant, ça, c'est pas assez. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut, c'est de l'émotion. Et c'est là tout l'important, il me semble, de la poésie, et de pas, en effet, comme tu disais, voir le monde comme une grande équation avec des X, des Y, des Z, et tout peut s'anticiper, se calculer sur des grands tableaux Excel. Non, c'est quand même très triste tout ça. Et ce qui nous différencie finalement des algorithmes qui font ça bien mieux que nous, et notamment ChatGPT, mon meilleur ami, c'est que lui, il est incapable de donner de l'émotion. Il est incapable de faire ça. Donc mon idée, c'est que ce qui va nous différencier des IA, demain, ce sera notre capacité à créer de la poésie, à s'émouvoir, à s'émerveiller, à s'aimer, et à partager cette espèce de grand inconnu qui nous unit tous. La colère, la tristesse, l'amour.
c'est beau, ça laisse un petit flottement où parfois on peut juste goûter les mots. Mathilde, je vois que ça t'a fait sourire.
Oui, ben, c'est vrai qu'en plus moi je viens du milieu un peu plus culturel, donc j'ai appris à aimer les mots. Enfin, et en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle en mon nom parce que je ne sais pas si c'est quelque chose de partagé, mais en tout cas, c'est ce que Romain dit. Mais c'est que, en fait, cette poésie, cette contemplation de la nature des mots, de tout ce qu'on, un peu ce qu'on arrive à toucher, mais sans trop comprendre, pour moi, c'est un peu ça. La poésie, ça nous touche, mais on n'est pas capable d'expliquer pourquoi. Et je trouve que c'est ça qui, pour moi, est un peu la révolution de. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai envie d'amener comme révolution aujourd'hui, parce que c'est difficile de trouver des endroits de poésie, enfin, ce que je trouve, dans ce monde, en effet, avec beaucoup de chiffres, de nouvelles vraiment déchirantes. Et voilà, et c'est pour ça que l'art, je trouve que ça a vraiment sa place. C'était Dostoïevski qui disait « la beauté sauvera le monde ». Bon, c'est évidemment pas vrai, mais moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose comme ça, où ça apporte en tout cas une joie et une envie de rêver qui est propre à l'univers un petit peu de la beauté artistique, où on a envie de penser que voilà, on peut apporter un peu de rêve et de beauté.
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la beauté qui va détruire le monde. Alors que les algorithmes, ça, on sait pas.
Moi, je voulais rebondir sur un truc un peu terrifiant, un peu hors sujet, mais malgré tout, en t'écoutant. En ce moment, j'écris un livre. Et pour construire mon livre, malgré tout, je le mouline dans ChatGPT. Je devrais pas dire ça. Mais alors, c'est pas ChatGPT qui m'écrit mon livre, hein, on est bien d'accord. Mais en revanche, ça reste quand même assez intéressant comme exercice pour construire une trame narrative où je vais lui balancer tout le livre, puis après tout le chapitre, puis un paragraphe ou un mot, et ça va être une sorte de ping-pong infini. Donc j'aimerais plus donner cette vision, parce que je pense qu'on va devoir apprendre à vivre avec cet outil jusqu'à ce que la société s'effondre. Il y aura peut-être des choses chouettes du fait de revenir sur des choses beaucoup plus terre-à-terre, mais d'un ping-pong de qu'est-ce qu'on en fait malgré tout, parce que c'est nous les humains, quoi. Et donc typiquement parfois moi ça me donne des idées de se dire ah tiens oui peut-être qu'à tel endroit je pourrais construire une faille dans un ou un espace dans une œuvre où finalement c'est un travail qui aurait été très très long avec un éditeur ou une éditrice que je n'ai pas encore trouvé, qui ne m'a encore jamais relu, et donc je pense que ça, on peut aussi, malgré toute la consommation des ressources monstrueuses que ça pose, parfois le voir comme quelque chose qui permet d'encapaciter, notamment quand on est face à une absence de moyens. Voilà, je donne ça. Ça n'aurait pas du tout été mon avis il y a encore 2 mois, parce que j'étais hyper contre. Mais c'est plus une espèce de partage d'expérience immédiate.
Oui, mais de toute façon, moi, je ne suis pas contre ChatGPT. Hein. Bien sûr, c'est à quelle fin ? Pourquoi on s'en sert ? Est-ce qu'on s'en sert pour être plus performant dans la détection de cancer ? Ou pour écrire des mails automatiques. Voilà, après c'est...
Mais est-ce que tu étais vraiment dans une absence de moyens, ou est-ce que tu es tombé dans une faille, et c'est juste que tu t'es aussi rendu compte que c'était vachement plus pratique, parce que on en parlait hors antenne, toi et moi, de se dire que c'est beaucoup... c'est un outil vachement plus puissant, là où tu n'as pas un pote qui pourrait, par exemple, relire tes chapitres et te donner l'avis en permanence.
Moi, je vais bien le faire, hein, par contre.
Non, mais alors, avec plaisir. Non, je pense qu'en fait, pour répondre à ta question, je pense que comme je suis très exigeant avec ce que j'essaie de faire, il faudrait avoir un pote qui accepte en permanence que je lui pose plein de questions.
Bah oui, c'est ça. C'est pour ça.
Et que tout le temps, il soit très patient avec moi. Tu vois, quand ouais, je vais lui dire, tu penses quoi de toute l'œuvre et tel chapitre ? Oui, non, peut-être, tel truc. Et voilà, donc c'est plus dans cette optique-là. Parce qu'après, encore une fois, c'est pas pour que ça soit ChatGPT qui fasse l'œuvre à ma place. Hein. C'est plus de t'as pensé quoi de tel personnage ? Est-ce que tu trouves qu'il est un peu lent ? Enfin bref, je pense
oui,
que...
Non, mais c'est sûr. Après, franchement, il y a aussi des choses qui démontrent que ChatGPT est construit sur des imaginaires qui sont déjà préexistants et qui, en fait... sont parfois oppressifs ou tu vois dans des schémas, et je trouve que c'est une réflexion qui est compliquée dans ton cas, parce que à la fois il y a une volonté d'explorer tout un tas de choses qui relèvent de la construction d'une trame narrative, tout un tas de choses qu'il faut savoir en tant qu'auteur et que ChatGPT peut t'aider à explorer et à découvrir, et en même temps forcément lui il s'inspire de tout un tas de trames narratives qui existent déjà, du coup il y a un côté...
On va revenir ensuite au sujet parce qu'on est en train de
c'est passionnant.
Un poil dévier. Je pense qu'après ça laisse la question de est-ce qu'on décide, enfin qui décide à la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est, moi, je pose des questions, on m'apporte des réponses, et après, j'en fais ce que je veux, quoi. Je ne suis pas obligé de suivre ce qui est donné. Et d'ailleurs, je ne suis pas. C'est souvent, ah, ok, peut-être que... Enfin bref, par exemple, je vais donner un exemple. J'ai donné un chapitre, on m'a dit, il est hyper lourd émotionnellement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à parfois apporter un peu de fraîcheur, tu vois ? Construire une intrigue qui puisse être plus nerveuse ou plus légère. Et donc, ça, c'est une source de réflexion de se dire, ah oui, tiens, peut-être, c'est vrai qu'émotionnellement, le chapitre est lourd, donc comment est-ce que je vais pouvoir essayer de trouver une manière de pouvoir intégrer un nouveau personnage qui va apporter quelque chose d'autre ? Et donc, c'est très foisonnant, quoi. Mmh, bref, on va revenir...
Je suis pas anti du tout. Hein,
non, mais moi, j'étais archi anti pendant longtemps, mais en plus. Mais là, on est en train de un tout petit peu s'écarter, même si ça reste une question intéressante sur la question du tout, puisque ça pose la question aussi de la relation entre les humains et la machine, notamment sur la question de l'émotion, de l'art, de la poésie et de l'amour. Et le jour où ça sera ChatGPT qui nous aimera, alors là, on aura perdu. Mais je vous propose de nous projeter dans un imaginaire souhaitable. Nous sommes en 2035. Peut-être que je peux vous inviter à fermer les yeux. Tu peux aussi fermer les yeux, Jeanne. Nous sommes en 2035 et nous sommes à la Belle de Mai, parce que j'ai ouï dire, mais je ne suis pas tout à fait sûr de mes sources, que vous habitez tous les deux à la Belle de Mai et que nous sommes ici même à la Belle de Mai et que Mathilde, tu travailles dans le quartier de la Belle de Mai. Donc, ça fait absolument sens d'être dans le 3e arrondissement de Marseille. On est en 2035. C'est un soir de mai. Il fait bon. Pas trop chaud, parce qu'on a en fait à peu près réussi malgré tout à la transition écologique, et donc on se retrouve pas en mai à avoir 45 degrés. Et nous sommes à la sortie du théâtre cinéma du Gyptis, le cinéma local, avec plein de têtes du monde entier. Et peut-être qu'il pourrait y avoir les jeunes que vous avez filmés qui auraient un jour leur tête sur le Gyptis. Vous avez présenté pour la 285e fois votre film, toujours avec beaucoup de plaisir, et vous ressentez la joie. Et j'aimerais que vous vous concentriez d'abord sur cette émotion que c'est que cette joie-là, et puis ce que ça provoque dans vos sens quand vous regardez ce Gyptis. Qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce qu'il y a des rires ? Est-ce qu'il y a des enfants dans la rue ? Et puis qu'est-ce que vous sentez quand vous sortez du Gyptis ? Est-ce qu'il y a toujours cette place d'aller avec cette rue qui est pleine de béton et pleine de bus qui sont toujours à la queue leu-leu, en train d'attendre de passer avec un feu qui naît à plus finir, ou est-ce que c'est une toute autre place ? Et puis concentrer encore un peu sur ces émotions, sur toutes ces sensations. Et puis tout d'un coup, il y a des jeunes qui sortent du film et puis qui se disent « Et si c'était notre tour ?» Notre tour de monter un projet, notre tour de faire un film. Et j'aimerais que vous continuiez l'histoire, que vous racontiez ce que vous avez ressenti et puis que vous continuiez cet imaginaire et ce qui adviendra, ou ce qui adviendrait.
Alors, on est face au Gypsy.
Gyptis.
Gyptis. Qui aura changé de nom entre-temps, vous l'aurez compris. Qui sera devenu un temple du jazz manouche. Non, je plaisante. On est sur le parvis. Moi, je suis avec Mathilde. On est joyeux, heureux, parce que je l'aime. Et Mamadou est là aussi. Et en fait, on a fait une surprise aux gens qui sont venus voir le film. C'était pas notre film qu'on a projeté, mais le film de Mamadou. Et les jeunes en sortant, on les entend un petit peu parler et disent « Mais waouh, c'est vraiment dingue. Je pensais plutôt aller voir Fast and Furious 18, mais c'est quand même beaucoup mieux. Là, on rigole un petit peu. On a bien réussi notre coup. Parce que ce film, de quoi il parle ?
Je vois Romain qui se tourne vers Mathilde, donc je vais mettre des mots plutôt que de faire des grands regards. Mathilde, je te vois sourire, rire.
Oui, pour revenir un petit peu aux émotions que tu disais au début, et je referai ensuite, continuerai ensuite l'histoire. Moi déjà, à la Belle de Mai, j'avais visualisé ce tram qui est en construction, qui peut-être ça fera seulement un an qu'il sera là, mais il est là, je voyais une place beaucoup plus verte. Et j'imaginais Lakshmi qui habitait en France, parce que c'est son rêve en fait d'habiter en France. Elle apprend le français et donc elle serait là en tant que danseuse, à mi-temps, enfin
au ballet de Marseille, avec la Horde.
Voilà. Et puis ensuite, je nous imaginais, j'essayais de me demander quelle place on avait pour projeter le film 10 ans après. Je nous imaginais avec une société de production où le but, c'était de justement essayer de produire et de donner une place au cinéma à grande échelle, dans nos limites, mais à des films portés par des premiers concernés. En fait, c'est assez rare, et c'est pour ça que le film en effet de Mamadou, j'espère vraiment qu'il va se réaliser, c'est qu'il y a peu de films qui parlent de migration et tout ça, réalisés par des migrants. Enfin, c'est souvent des personnes qui évidemment sont très sensibles, se sont beaucoup inspirées d'histoires vraies, etc., mais qui n'ont pas, c'est rare, je trouve, en tout cas dans ce que je connais, de projets réalisés par des premiers concernés. Et donc, voilà, c'était de porter cette société de production où le but, c'est de mettre un peu à l'échelle et de aussi essayer de former, donner les codes pour que les personnes puissent se saisir de leur histoire pour en faire un objet qui peut parler un petit peu à tout le monde. Et donc, Mamadou a réalisé son film. Il en est à son deuxième film. Non plus un court-métrage, mais un long-métrage.
Énorme succès.
Et il aura gagné le prix du regard. Là. C'est quoi ce prix ?
Moi, franchement, si je peux me permettre d'enchaîner, même pas, en fait. Il ne serait pas rentré dans le circuit classique du cinéma. Parce qu'il y a aussi un petit peu une idée de faire du hors-circuit. Et peut-être même du court-circuit. On coupe le circuit. Et comment faire ça ? En fait, en étant plus indépendant et en proposant à tous les parties prenantes du film d'être rémunérés au même niveau, qu'on soit réalisateur ou chef opérateur ou mécanicien électronique, peu importe. Que ce soit une grande famille qui vienne quand il faut aller bloquer une route. Et si on est l'acteur principal et qu'on doit bloquer les voitures, eh ben on y va parce qu'on n'a pas notre scène à jouer. Et donc ça fait une grande famille, donc toujours dans cette idée de ensemble on peut faire quand même des choses encore plus fortes sans dépenser des millions. Avec des films qui sont juste puissants et qui permettent à Mamadou d'exister et de porter sa voix dans une industrie très capitalistique et qui demande beaucoup de moyens pour finalement avoir une voix. Donc, d'ailleurs, ce sera court-circuit production. Et Mamadou nous annonce qu'il va s'installer à la Belle de Mai aussi.
D'accord, finalement, tout le monde vous aura rejoint à la Belle de Mai.
Ouais. Et Marin vivra là aussi, il sera propriétaire du Gypsy.
Alors je sais pas si je serai propriétaire pour avoir lu Proudhon, j'essaierai de trouver d'autres techniques liées à la propriété. Mais ça sera pour une autre fois d'aborder la question de la propriété lors de nos émissions de radio. Voilà, donc je vous propose de pouvoir clôturer. Par exemple, avec Rémi Lagaric, si un jour il nous écoute, qui a une foncière solidaire où il questionne la question de l'utilisation de la propriété, notamment pour faire des installations sur des espaces précaires, comme par exemple, pas précaires, des beaux précaires, comme par exemple la réserve des arts peut l'être. Et donc, comment est-ce qu'on se réapproprie l'espace ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Mais ce n'est pas pour ce soir. Merci à vous deux et aux deux autres. Oui, tu voulais dire une dernière chose ?
Un peu de promo, c'est possible.
Allez, bien sûr.
Pour nous suivre, il faut aller sur Instagram et regarder Youth Vision Studio. Youth Vision, c'est le studio avec lequel on a créé le film. Et vous allez trouver aussi quelques podcasts, des articles, des vidéos un petit peu en immersion dans notre tournage. Et donc, si vous suivez ça sur Instagram, LinkedIn, Facebook, normalement, vous allez être tenu au courant de toutes les avant-premières et la sortie nationale qui est le 11 septembre.
Et on fera une énorme avant-première à Marseille très bientôt. Pour connaître la date, Instagram, YOUTH-VISIONS, Vision. On compte sur vous.
Merci beaucoup Romain, merci beaucoup Mathilde, et puis merci aussi l'équipe sans qui cette forêt des possibles n'existerait pas. Félix Stédelin en studio,
merci beaucoup.
Jeanne Ray avec Jeanne. Nous, enfin ici même. D'ailleurs, je me suis trompé parce que Félix n'était pas en studio, il était en régie. Et à la semaine prochaine. Bonne soirée.
Salut.
Merci,
salut, ciao.